Bonsoir à tous et bienvenue dans Cop Nord. On est de nouveau en direct ce lundi soir pour revenir bien sûr cette Ligue 1 passionnante. Il reste une journée en Ligue 1 et ça reste très mouvementé en ce haut de tableau. Ça pourrait s'arranger pour le LOSC qui est très très bien placé suite à cette avant-dernière journée. Lille qui s'est d'ailleurs imposée à Monaco, qui a donc son destin entre les mains, reste aux hommes de Bruno Genesio à s'imposer dimanche face à Auxerre. Auxerre qui a aussi besoin de points pour se maintenir dans l'élite. De son côté, Lens retrouvera officiellement la Ligue des Champions la saison prochaine grâce à une victoire contre Nantes. La tête dans les étoiles grâce à la comète Méziane Mesloub, 16 ans seulement et buteur au bout de 5 secondes après son entrée en jeu. Et puis en national, Valenciennes s'incline encore, cette fois à Bourg-en-Bresse, alors que les hommes de Pierre Bloire ont multiplié les occasions. Le coach nordiste qui a d'ailleurs profité de cette rencontre pour offrir du temps de jeu à des jeunes en vue de la saison prochaine. On vous détaille tout ça à la fin de cette émission dans Cop Natio. Laissez-moi vous présenter ceux qui sont autour de cette table avec un coup d'œil à côté Lensois. Bonsoir Benjamin Dubus et Iban Dubourg.
Bonsoir Vincent.
Et puis de l'autre côté de la table, vous reconnaissez Arnaud Milieu. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Vincent.
Et à tes côtés, Tony Giacinto. Je vais pas y arriver. Tony Giacinto. Bonsoir. C'est pas mal. Hein. Désolé pour le nom accroché. Ancien latéral gauche du LOSC dans les années 70. Et remplaçant un petit peu, j'ai cru comprendre avant. Et aussi directeur sportif du LOSC.
Les entraîneurs.
Hein. Non. Directeur sportif aussi du LOSC.
Ouais, non, ouais.
Effectivement, donc une longue carrière et on va parler avec vous surtout de Grimont Préjoris puisqu'il y a donc un livre qui est sorti en novembre dernier sur l'histoire de ce stade aujourd'hui disparu. Si vous souhaitez réagir justement, revenir peut-être sur la carrière de Tony, vous pouvez nous écrire grâce à ce QR code, vous le scannez avec votre portable et vous nous écrivez pour réagir en direct à cette émission. Mais d'abord, retour donc sur la victoire du LOSC qui leur offre la troisième place résumée de cette victoire à Monaco avec Barbara Durand-Carmona.
C'est la très bonne opération de la soirée. Après une première période fermée, les Dogs sortent finalement grand vainqueurs de la rencontre face à Monaco grâce à un but contre son camp du monégasque Zakaria à la course pour empêcher Meunier de marquer. Victoire 1-0 qui place les Dogs troisième au classement devant Lyon. À une journée de la fin et la réception d'Auxerre, les Lillois n'ont jamais été aussi près de retrouver la Ligue des Champions.
Et ça fait donc 13 matchs d'affilée sans défaite pour le LOSC, Arnaud. Est-ce qu'on parle d'une victoire méritée ou une victoire chanceuse pour le LOSC face à Monaco ?
Un peu des deux. À la fois chanceuse, parce que bah, y a un scénario de match où ça peut quand même basculer d'un côté ou de l'autre. Mérité, parce qu'on a aussi des joueurs qui ont fait la différence. On a moins vu ça à Monaco quand même. On a vu des joueurs qui se sont battus jusqu'à la dernière seconde. On a un Meunier qui a fait un très grand match, un Perrault, un Mandy, qui se sont montrés vraiment à la hauteur de l'enjeu de ce match.
Tony, justement, c'est vraiment Thomas Meunier, un peu l'homme de cette fin de saison côté lillois.
Il est assez impressionnant au vu de ses 35 ans, comme quoi qu'on peut jouer avec un âge certain. Je crois qu'il doit avoir une hygiène de vie.
Alors, n'hésite pas à rapprocher bien du micro pour qu'on puisse revenir donc sur Thomas Meunier.
Oui, quand il est arrivé l'année dernière, tout le monde disait bon, il est un petit peu en pré-retraite. Je crois qu'il a beaucoup d'orgueil, il a beaucoup de sérieux dans sa préparation invisible, comme on dit. Et puis il n'arrête pas des fois il est un petit peu, moi qui suis un ancien arrière, des fois on peut le retrouver à l'aile gauche. Si j'avais fait ça avec l'entraîneur, il m'aurait viré, quoi. heureusement qu'hier il est allé au bout de son intention et qui oblige le monégasque à tacler d'une manière un petit peu.
Denis Zakaria qui marque contre son camp, effectivement. Voilà. Iban, justement, c'est ça qui fait aussi l'importance de Thomas Meunier dans ce groupe, c'est l'attrait, l'apport offensif de Thomas Meunier qui rêve de finir numéro 9 en plus.
Ouais, ben non, parce que c'est vrai qu'à Lille, quelquefois, offensivement, ça marche pas à tous les matchs. Il y a eu des manques sur ces derniers matchs à Lille. Et là, justement, ces joueurs comme Meunier en défense, là, il dépasse ses fonctions et c'est lui qui va apporter le surnom devant. Donc quand ça marche un peu moins bien pour les milieux offensifs et les attaquants, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs comme Meunier pour aller mettre la pression sur les défenseurs.
Quoi. Et c'était donc une victoire collective pour les Lillois, une victoire à la Lilloise, comme le disait Bruno Genesio hier.
Une soirée quasi parfaite. Une victoire à la Lilloise, oui, je pense. Parce que je pense qu'on a quand même maîtrisé une grande partie du match. On s'est créé plusieurs situations pour marquer. On a réussi à en marquer une contre leur camp, d'ailleurs, je crois. Donc ça, un peu la même histoire de nos matchs avec plusieurs situations, mais pas beaucoup d'efficacité. Mais aussi et surtout, ce que je veux souligner, c'est la solidité de mon équipe, solidité défensive de tout le monde. Et ça part de nos attaquants jusqu'à notre gardien, avec cette solidarité, avec cette envie de faire les efforts.
La solidité, la solidarité, Arnaud, forcément on pense à Félix Correa, qui est un des joueurs les plus utilisés par Bruno Genesio. Effectivement, de nouveau, très volontaire dans le combat, très approximatif aussi, et surtout, qui ne va pas forcément communier avec les supporters à la fin du match. Ça pensait quoi du match de l'ailier portugais, qui a été peut-être un peu perturbé par les sifflets qu'il avait reçus lors de sa sortie au match dernier?
Bah, j'ai trouvé qu'il a fait un match à la Correa, un match où, on va dire, tout ce qui est football sans ballon est très très bien maîtrisé. On parlait de Meunier, je pense qu'il n'y a pas de Meunier qui peut être en dépassement de fonction s'il n'y a pas un Correa qui est là. C'est pareil pour Muco de l'autre côté. Perrault et Meunier peuvent facilement déborder et se créer des occasions parce qu'il y a ces joueurs-là qui font un travail de sape qui est gigantesque en termes de placement, défensivement, etc. Alors peut-être ensuite ils perdent un peu d'influx et de technicité au moment où la balle au pied, et c'est vrai qu'il n'a pas fait un grand match balle au pied Correa hier. Par contre, pour moi, il a fait un grand match dans le placement et dans la rigueur tactique.
Est-ce que tu penses que Bruno Genesio doit donc le retitulariser dimanche alors qu'il reçoit Auxerre et qu'on sait que la relation avec les supporters est quand même très compliquée pour lui?
Ah oui, pour moi, il doit le titulariser. Si Genesio pense que c'est l'homme de la situation, il doit le titulariser sans tenir compte de ça. Parce qu'aujourd'hui, il a quand même... Si la relation avec les supporters est compliquée, ce qui compte, c'est surtout que la relation avec ses coéquipiers soit fluide. Donc c'est avec ses coéquipiers autour qui savent le trouver facilement, qui savent que quand ils peuvent monter et qu'ils seront couverts. Ça me paraît essentiel. Maintenant, si il faut aussi percer le mur au Serrois, mais au Serre doit gagner.
Et tu t'attends à quel genre de match, toi, Tony, justement, contre Auxerre dimanche?
Sur les trois derniers matchs que Lille devait jouer à domicile, j'avais quelques craintes qui ont été confirmées avec le match nul contre Nice et contre Le Havre aussi. Puis j'avais dit à des potes, les trois matchs qui vont terminer la saison à Mauroy, ça va être compliqué. Contre Auxerre, ça va être compliqué. Bon, hier, ils ont quand même eu des ressources d'être menés 0-1 et de gagner 2-1. Ils ont un entraîneur que j'apprécie beaucoup, que j'ai croisé plusieurs fois lorsqu'il était entraîneur à Amiens. Je pense que Lille doit continuer à jouer comme elle le fait. C'est une équipe qui a... c'est pas une équipe brillante. Même il y a quelques semaines, quelques mois, on disait on est quand même beaucoup moins bon. Le problème de Lille cette année, c'est que l'année dernière, ils avaient quand même des gros joueurs, des très bons joueurs. Et c'est difficile quand il faut remplacer des très bons, de retrouver des très bons. Donc inévitablement, le niveau de l'équipe de cette saison est inférieur au niveau de l'équipe de l'année dernière. On a perdu Chevalier, on a perdu Zegrova.
Il y a eu un très gros travail à vision des recruteurs avec Jonathan David notamment, qui
voilà,
fait partie des...
Voilà, Jonathan David. On a perdu quand même des figures importantes de l'équipe. Donc c'était pas facile. Et de le retrouver là, moi je suis un peu surpris. Bon, ça valorise le travail de Genesio, qui à un moment donné est écrit... critiqué, je l'ai toujours défendu parce que il est toujours dans sa lignée de décision, de travail.
Il y a eu une grosse passe à vide effectivement en janvier-février.
Oui, il a eu des circonstances personnelles atténuantes quand même, hein, il faut le savoir. Et bon, on parlait de Correa. Correa, c'est un garçon qui, peut-être pour moi, je ne le connais pas du tout, qui manque de confiance en lui parce qu'il prend le ballon, c'est un attaquant. Moi, j'ai toujours un attaquant lorsqu'il est en 1 contre 1. Il doit faire trembler son adversaire. Tandis que lui, il fait 3 mètres avec le ballon devant, il marche dessus, il rejoint en
retrait. C'est vrai que c'est pas forcément son point fort, les dribbles à Félix Correa.
Juste oui, donc il faut changer de place alors.
Ou
arrière.
Le problème, c'est qu'effectivement, si tu lui demandes d'avoir des apports. Mais pourquoi pas, en tout cas.
Mais pour l'équipe.
Le but du jeu, manifestement, c'est de laisser pour toi Félix Correa sur le terrain dimanche contre Auxerre. Et pour vous, Benjamin, Iban, que doit faire Bruno Genesio? Est-ce qu'il doit garder ce 11 qu'on sait très défensif, très solide, alors que Auxerre devrait se présenter avec le bus derrière, ou plutôt essayer une surprise quelque part avec des joueurs plus offensifs, à l'image d'un Sarraoui, peut-être qu'on ne voit pas assez sur cette fin de saison?
Iban, déjà, moi, je suis pas persuadé que Auxerre arrive avec le bus, parce que Auxerre va devoir quand même gagner. Je vois pas Nice lâcher des points contre Metz qui joue plus rien. Donc pour moi, Nice est aussi dans l'obligation de faire un résultat à Lille. Alors déjà, je les vois pas venir avec le bus, moi. Parce qu'il faudra, et bon, si on se positionne d'un point de vue lensois, On préférerait évidemment qu'Auxerre gagne, comme ça Nice jouerait les barrages de descente.
Parce que Nice est l'adversaire de la Coupe de France.
Par rapport à la Coupe de France. Donc moi je trouve que Correa, même si alors il peut être maladroit, ok, mais c'est quand même quelqu'un qui crée des brèches. Et quand on Lille, toute la bonne partie de la saison a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. On se posait beaucoup la question sur le plateau de savoir comment il devait jouer avec quel attaquant. Je pense que c'est quelqu'un qui crée des occasions quand même, même si oui, sur la finition, il est un peu maladroit.
Non, moi je pense que Genesio, il a trouvé une formule qui marche. Ça fait 13 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ils ont retrouvé un état d'esprit quand même assez irréprochable. C'est ça qui fait la force du LOSC aussi ces derniers matchs. Ils sont pas forcément brillants, comme tu disais, mais ils ont un très bon état d'esprit qui leur permet de gagner. Et après, bon, on voit effectivement entre Correa et les supporters, il y a une petite tension. Mais j'espère quand même que pour un dernier match à domicile où Lille doit à tout prix gagner pour valider la Ligue des Champions, Lille, ils ont passé par des moments très difficiles. C'est quand même un peu inespéré de les retrouver la troisième à une journée de la fin. Je pense que quand même les supporters, ils vont sur ce dernier match savoir mettre un peu de côté l'histoire Correa et encourager toute l'équipe, quoi.
Et justement, pour revenir aussi sur les autres problèmes offensifs, peut-être celui de Mathias Fernandez-Pardo, qui a de nouveau plusieurs occasions. Ça y est, la hype Fernandez-Pardo, elle est un peu retombée, Arnaud.
Ouais, ça n'a pas été son meilleur match. Maintenant,
ça fait plusieurs où il rate devant le but.
Oui, ensuite, on parlait des 13 matchs d'affilée sans défaite. Depuis 13 matchs, si on avait commencé le championnat il y a 13 matchs, on serait leader.
mais il y a d'autres stats comme ça. Si on arrête le championnat de France à la 75e
voilà.
minute...
Moi, j'aime bien, quand on n'est pas leader, c'est souvent ce qu'on utilise. Et en fait, Fernandez Pardo fait pleinement partie de cette équipe qui depuis 13 matchs performe. Donc ça coïncide aussi avec son replacement en tant qu'avant-centre. Donc bon, oui, il y a des matchs avec, il y a des matchs sans. J'aimerais bien qu'il soit plus réaliste. Ensuite, je pense qu'il progresse. On l'a vu progresser cette saison. On l'a vu progresser aussi par rapport à la saison dernière. Je trouve qu'il a du sang-froid aussi dans la façon. Le pénalty qu'il a tiré contre Lens ou le pénalty qu'il met contre je sais plus qui récemment. Il y a énormément de sang-froid à chaque fois. Donc ils sont tirés. Ouais, pareil.
Mais en tout cas, il en a mis un deuxième.
Il en a mis un deuxième et toujours avec énormément de sang-froid. Donc ça veut dire qu'il l'a. Ce potentiel pour moi de finir ces occasions.
En tout cas, il faut absolument une victoire ce dimanche contre Auxerre. Écoutez Thomas Meunier.
Mais les manques classés, on les connaît. On a déjà perdu pas mal de points contre des équipes de bas de classement et ils peuvent se sauver. Donc c'est aussi dans leur intérêt de ne pas boucher derrière et d'essayer de faire quelque chose. Voilà, j'espère qu'on aura affaire à une équipe d'Auxerre qui vient pour jouer le jeu, tout simplement, et à nous aussi, parce que là, la troisième plat professionnelle, que de ne pas la prendre dimanche à 23h. Ici, on joue à domicile contre Auxerre. Ça peut pas être plus clair. On doit gagner ce match et c'est la seule option. Il faut qu'on fasse le taf de la meilleure des manières, que ce soit pour nous, pour les supporters, pour les gens qui partent, pour les gens qui vont signer, pour les gens qui seront là l'année prochaine. C'est aussi un cadeau pour tout le monde. C'est finir sur une bonne note, se dire voilà, les copains qui seront encore là l'année prochaine, ils vont jouer à Champions League sans éliminatoire, ils vont passer de bonnes vacances. Il n'y a pas de stress, hein, et ça compte, parce que finir sur une défaite, c'est vraiment une merde. J'ai déjà expérimenté plus d'une fois. Et après, voilà, tu ronges ton frein pendant 3 semaines et puis seulement tu passes de bonnes vacances, il ne reste plus que 5 jours.
Le franc-parler de Thomas Meunier qu'on peut souligner à chaque fois,
c'est
vrai que
c'est un
honneur.
Très
bon client. À l'ancienne.
À l'ancienne, effectivement. Il n'a pas trop peur des possibles retombées des médias. Juste un mot d'un joueur dont on n'a pas parlé.
Les réseaux sociaux. Il s'en fout, il parle.
C'est vrai qu'il s'en fout un petit peu. Juste un mot sur le retour de Nabil Bentaleb, rentré à la mi-temps à la place d'Ayoub Bouadi. Ouais. Là, pour le coup, ça peut être un vrai point fort pour le match dimanche.
Oui, ça peut être un vrai point fort, parce que finalement, les meilleures performances qu'on a fait sur ces fameux 13 matchs, c'est quand Nabil Bentaleb était titulaire. Donc avec son côté quarterback qui oriente le jeu, jeu long, jeu court, technique, il peut faire très mal.
Je long, je marque.
Et je marque aussi.
C'est pas le meilleur buteur, effectivement.
Non, c'est pas le meilleur buteur.
Parce qu'il joue, lorsque les derniers matchs où il était titulaire, il joue très bas, il joue quasiment par moment même troisième arrière central, quoi. Donc il a tout le jeu devant lui. Bon, je veux pas minimiser son rôle, mais c'est facile quand tu joues 20 mètres devant le feu, d'avoir d'avoir la possibilité de mettre là.
Oui, mais faut savoir les mettre.
Et lui, il aimait.
Il aimait,
lui,
voilà.
Il aimait d'une manière.
Et donc, il casse les circuits assez classiques du LOSC. Il a justement cette capacité.
Comme faisait Daniel Leclerc.
À son époque.
Enfin, l'époque, alors.
Juste pour revenir donc sur le match de ce week-end, on a dit il y a donc un Lille-Auxerre, mais il y a un autre match à côté très important, puisqu'il y a un Marseille-Rennes qui sont juste derrière effectivement les Lillois, sans oublier Lyon-Lens. Donc c'est possiblement une dernière journée d'anthologie qui nous attend dimanche. Et d'ailleurs, restez bien avec nous parce que le match du LOSC qui sera à suivre en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Juste avant, une dernière question pour parler de l'actualité du LOSC, RMC qui évoque la rumeur Thiago Motta pour prendre la suite de Bruno Genesio. Arnaud, est-ce que tu penses que ça peut être une bonne chose si Bruno Genesio venait à devoir être remplacé?
Ah, si Bruno Genesio
part,
si Bruno
se termine cet été,
voilà, exactement.
On n'a pas de signaux qui évoquent une
Olivier Létang et Thiago Motta, me semble-t-il, se sont connus au Paris Saint-Germain, donc je pense qu'ils sont ils ont le numéro l'un de l'autre, en tout cas. Alors, ça pourrait être une bonne pioche, c'est une belle personnalité.
Avec la Juve, non, en Ligue des Champions,
oui.
Parce
qu'il est dans les tuyaux depuis un moment, mais il n'a pas encore eu la confirmation qu'il ait les pleins pouvoirs sur tout ce qui est recrutement et tout ça. Parce que forcément, avec Létang, qui est un président assez
présent.
Présent et atypique. Jean Beaumel nous l'avait dit déjà, qu'il s'était déjà dans les clous depuis un moment, mais il attendait d'avoir la certitude d'avoir les pleins pouvoirs. Est-ce que ça a avancé depuis le temps? Je ne sais pas.
Motta, il veut les pleins pouvoirs?
Pardon, sur le sportif notamment.
Sur le sportif et le recrutement, oui.
Ah, ça me paraît logique qu'un entraîneur il demande ça. Enfin, ça devrait même pas le demander, quoi. Ça coule de source. Mais bon, il y a des fois des présidents qui sont omniprésents. Et qui peuvent justement.
En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne pour le LOSC parce qu'il est assuré d'être dans le top 5.
Il faut croire que Bruno. Moi, j'aimerais bien que Bruno Genesio il reste parce qu'il est discret, il est un peu.
Mais il est peut-être un peu
paternaliste.
Fatigué aussi, mine de rien. Des saisons très longues. Mais en tout cas, nouvel exploit pour Bruno Genesio puisque le LOSC est assuré de terminer dans le top 5 pour la 7e fois en 8 ans. Des Dogs qui remontent donc à la 3e place avec 61 points, un de plus que Lyon et deux de mieux que Marseille. Et puis Lens qui est donc officiellement qualifié pour la Ligue des Champions, il sera, sauf énorme surprise, second de Ligue 1. D'ailleurs, on revient sur la victoire de Lens face à Nantes. Résumé de cette rencontre et de cette victoire, c'était vendredi avec Thomas Palmier.
C'est donc lui, le héros du Racing Club de Lens. 79e minute, Lens est accroché par Nantes qui lutte pour son maintien. Pierre Sage lance Méziane Mesloub, 16 ans, à la place d'Abdallah Sima. 18 secondes après son entrée sur le terrain, premier ballon en professionnel, premier tir et premier but. L'histoire est magnifique pour ce joueur international portugais chez les jeunes et qui évolue avec l'équipe réserve de Lens. Le tout sous les yeux de son papa Walid Mesloub, ancien joueur du Racing. Victoire 1-0 qui envoie Nantes en Ligue 2. Les Sang et Or, eux, vont retrouver la Ligue des Champions.
Benjamin, forcément, on va s'arrêter sur ce but de Méziane Mesloub. C'est le deuxième plus jeune buteur débutant dans l'histoire. On a vu l'émotion de son papa aussi. Et en fait, dans l'histoire de ce match, c'est sa rentrée qui fait tout basculer.
Ah, c'est la belle histoire. Le petit jeune de 16 ans, il n'a pas encore son nom derrière le maillot. Son papa qui fait partie du staff lensois sur l'équipe réserve, ancien joueur de Lens. Au bout de 5 secondes qui marque, bah oui, c'est la belle histoire, c'est une série Netflix, donc tant mieux, et c'est ce qu'on retiendra du match et puis l'ambiance, parce que bon, après c'est vrai que sur le match, il n'y a pas grand chose à redire. Alors Lens a un peu joué par à-coup, il y a eu quelques belles occasions, mais sinon le match était quand même assez soporifique. On aurait pu se faire piéger sur un 2 contre. Heureusement qu'Abline, le deuxième, juste avant le but, le joue mal parce que le but est tout fait. Donc oui, c'est la belle histoire et j'espère que. On nous dit qu'il est très fort. On attend de voir et on espère que ça continuera, mais oui, c'est la belle histoire.
Et on espère pouvoir le revoir, notamment l'année prochaine. Juste avant de te donner la parole, Iban, on peut écouter justement Walid Mesloub sur l'émotion forcément qu'il a ressentie au moment où il a vu son fils rentrer sur la pelouse puis marquer.
C'est vrai que ce soir, énormément de fierté déjà en tant que papa, de le voir fouler cette pelouse que j'ai aussi foulée auparavant. Je me souviens, il était tout petit. Et de le voir donc rentrer sur le terrain, déjà d'être dans le groupe, c'était quelque chose de fort. Mais j'attendais ce petit moment qu'il puisse s'exprimer sur le terrain. Et heureusement pour lui, ça s'est super bien passé avec une belle qualification au bout. Donc une belle fête. Je pense que ça va rester gravé dans sa mémoire à vie.
Et Iban, pour tourner assez rapidement la page de ce match, parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui à Lens, il manquait quand même 5 titulaires, ce qui explique peut-être les difficultés de Lens dans le jeu.
Oui, je pense que les absences se sont fait sentir, notamment en première période. On était un peu surpris de voir Pierre Sage, notamment sur le poste de piston droit. Saoud Abdelhamid était suspendu. On se dit, il va mettre Aguilar. Non, il met Abdelhassima. Abdelhassima était quand même en difficulté sur son côté droit. On a senti qu'au milieu de terrain, c'était un peu moins bon, même si Bulatovic a été très bon. C'est aussi offensivement où Fofana a eu un peu de mal. Il manquait quand même Thauvin, il manquait Saint-Maximin. Donc c'est vrai que notamment la présence de Mesloub dans le groupe, c'était parce qu'il y avait beaucoup d'absents aussi, mais c'était intéressant aussi. Alors toutes ces absences, ça a fait aussi qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont rentrés à la fin du match. On a vu Fodessi la rentrée, Bermond, Semesloub, et la présence de tous ces jeunes aussi, même si c'était parce qu'il y avait beaucoup d'absents de titulaires, c'est aussi un symbole de ce Lens qui cette année a fait confiance aux jeunes de centre formation.
Lens qui se qualifie donc pour la Ligue des Champions directement l'année prochaine. Forcément, on peut voir l'ambiance, hein, la grosse fête même à Bollard avec les feux d'artifice. Tu y étais toi, Iban, si je ne me précise. Bollard, comment tu l'as vécu, cette célébration, cette cérémonie, ces vidéos qui ont été diffusées?
C'était vraiment une très très belle soirée. C'est surtout la fin de match, ça s'est accéléré en seconde période. C'est vrai que donc, ce but de Mesloub complètement libérateur. Après, pour me souvenir de leur qualification en Ligue des Champions sous l'ère francaise, j'avais senti un peu plus de fête et d'ambiance il y a quelques années sous Francaise. Mais là, c'était quand même une très belle fête où tous les joueurs sont rentrés sur le terrain après. Et on va dire que le public attendait que Lens gagne ce match-là et se qualifie et soit assuré d'être deuxième sur ce match-là. Et c'était vraiment une belle soirée.
Et il va falloir remettre déjà ça mercredi avec ce match contre le Paris Saint-Germain. Souvenez-vous du débat qu'on avait à l'époque où la Ligue officialise le report du match sur décision unilatérale du Paris Saint-Germain. On disait oui, mais le titre se sera déjà joué à ce moment-là. Les Lensois seront beaucoup moins motivés. Est-ce que là, vous pensez vraiment que les joueurs de Lens ne sont plus aussi motivés à l'aube de ce match que si la rencontre s'était jouée il y a quelques semaines?
Si on regarde mathématiquement, on peut encore être champion. Après, il faut se le dire, pour moi, le titre est joué.
Une vingtaine de buts.
Il faut que Paris perde ses deux matchs, qu'on remette 20. Oui,
mais
voilà.
Tu penses que là, les joueurs sont moins motivés à affronter Paris que s'ils les avaient affrontés?
Je pense qu'ils sont motivés parce que c'est Paris. Mais le match n'a plus la même odeur que s'il avait eu lieu il y a un mois, comme c'était prévu initialement. Voir aussi quid de quelle équipe va envoyer Paris aussi, parce que Paris est capable d'envoyer équipe C. Alors eux, comment vont gérer alors déjà nous à Lens, comment on va gérer l'agenda pour savoir comment faire jouer par rapport à la finale de la Coupe de France? Paris va gérer aussi son agenda par rapport à la Ligue des Champions. Donc c'est sûr que si Paris envoie une équipe bis, ce sera pas...
Non, mais si tu bats Paris à domicile, Paris ne célèbre pas son titre de champion chez toi. Il y a ça aussi, mine de rien, qui peut jouer.
Pour moi, ça, c'est secondaire. Pour moi, par rapport à ta question de base, initiale, c'est est-ce que le titre... Pour moi, le titre est déjà joué, il n'y a plus...
Non, mais c'est... Ouais, on va dire qu'il y a un mois, il y avait un vrai enjeu. Ce Lens-Paris, il y a un mois, il y aurait eu un vrai enjeu. Là, l'enjeu, il est vraiment secondaire, parce qu'on sait que Paris va être champion avec notamment cette différence de but. Après, oui, ça va être une belle fête. Le stade sera plein, c'est toujours sympa. Et si Lens gagne mercredi, on pourra dire on a battu Paris cette saison. Mais je pense que maintenant, côté supporter, côté joueur, les esprits sont vraiment tournés vers la finale de la Coupe de France.
Je pense pas. Moi, je pense que la Coupe de France, elle va être dans les esprits des joueurs et des supporters après ce match.
Est-ce qu'ils n'auront pas peur de se faire mal?
Oui, mais à ce moment-là, les Parisiens aussi, ils sont dans la même position.
Oui, mais Paris est un peu plus large.
Et quand tu fais attention de ne pas te blesser, que tu te blesses.
Je suis d'accord.
Parce que tu es stressé, musculairement, ça répond pas. Donc, moi, je crois que, j'en suis sûr, que les joueurs lensois veulent jouer ce match pour le gagner. Parce que ça reste toujours un événement que de battre le Paris Saint-Germain. Et un club comme Lens, avec plus d'abonnés que d'habitants dans la ville, c'est extraordinaire d'être... Non, moi, je pense que la fin de championnat, entre guillemets, ça sera après ce match joué.
Et donc il y a une gestion d'effectifs à avoir pour Pierre Sage, puisqu'il y a Paris et puis Lyon qui
Paris arrive. Va mettre, à mon avis, mais la meilleure équipe possible.
Restons
et le dernier match de Lens, là il va peut-être lever le pied à certains joueurs. Il va dire bon.
Eh ben on va poser. C'est la question qui a été évidemment posée à Pierre Sage sur la gestion des groupes, sur les prochains matchs. Faut-il mettre à chaque fois le 11 titulaire? La réponse du coach artésien.
Il va falloir déjà faire un point sur les suspensions, ensuite sur les états de forme. Et notre seule volonté, c'est d'avoir un atterrissage très, très positif au jour de la finale. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qui va orienter nos décisions. Et malgré tout, on s'attachera de bien finir le championnat à domicile et bien le finir à l'extérieur. En plus, ce sera un match contre les deux équipes qui sont autour de nous. Donc, enfin, ce seront des matchs contre les deux équipes qui sont autour de nous. Donc, on doit aussi montrer qu'on n'est pas là par hasard.
Alors, il y a cette gestion du groupe qui est en question à l'heure actuelle. C'est qui doit-il faire jouer? On a eu des joueurs qui étaient un peu sur le côté pour des petites blessures. Je pense à Saint-Maximin, à Thauvin. Est-ce que vous attendez à les voir là contre Paris, plutôt contre Lyon, ou préserver dans les deux matchs et pour qu'ils jouent contre, en Coupe de France?
Je pense que s'ils sont remis, si en tout cas Thauvin et Saint-Maximin, si physiquement ils sont remis dans les jours qui viennent, il faut au moins les faire jouer sur un match pour qu'ils retrouvent le rythme avant là. Faudrait pas qu'ils reprennent sur la finale. Il faudrait qu'ils jouent au moins un des matchs pour reprendre du rythme, parce que Thauvin, Saint-Maximin, sur les derniers matchs, c'était les attaquants, enfin les offensifs les plus performants et les plus dangereux. Donc je pense qu'il faut qu'ils jouent au moins contre Paris ou Lyon pour retrouver le rythme.
Bah, Saint-Maximin, il n'a pas joué beaucoup. Hein. Il était souvent sur le banc, il rentre.
Non mais c'est un joueur qui quand même percé sur la fin de saison. Là, c'était un des joueurs.
Ces derniers temps, c'était l'attaquant le plus décisif.
Et là, je pense que le faire jouer contre Paris, s'il est rétabli, pourquoi pas, et le faire souffler à ce moment-là contre Lyon pour le préserver.
Et justement, la question que se posent tous les Lillois, c'est que va faire Pierre Sage contre Lyon, évidemment, son ancien club. Est-ce qu'il va faire des cadeaux dans son 11 de départ? Résumé justement de la situation tout de suite avec nos confrères d'RMC Sport.
Pour la dernière journée de Ligue 1, Pierre Sage retrouvera le Groupama Stadium dimanche soir. L'entraîneur du RC Lens, qui avait occupé la place sur le banc lyonnais de novembre 2023 à janvier 2025, était déjà revenu à Lyon pour la Coupe de France au mois de mars. Les 100 et or s'étaient imposés au tir au but. La forte sollicitation des supporters lyonnais sur les réseaux sociaux et son départ précoce de l'OL lui laisse un goût d'inachevé.
Je l'ai toujours dit, je ne m'en suis jamais caché. Selon moi, ça s'est fini dans des conditions qui méritent que l'on se revoie.
Malgré son amour pour l'OL et ses envies lyonnaises, Pierre Sage sera bien sur le banc lensois la saison prochaine.
Avec donc cette question pour les supporters lensois autour de cette table, est-ce que ça vous gêne d'avoir un supporter en tant qu'entraîneur, un supporter lyonnais en tant qu'entraîneur? Parce qu'il se place effectivement en entraîneur de Lens, mais il n'a jamais caché ses liens. Il parle de « un jour je retournerai à Lyon ». Est-ce que pour vous c'est complètement anecdotique, ou à l'aube de ce genre de match, ça peut être compliqué ce genre d'échange de déclarations?
Il est honnête dans sa, il a toujours été honnête dans sa communication. Moi, ça me pose pas de problème. Vaut mieux, enfin, il s'en cache pas. Et de toute façon, on sait qu'il a un attachement à Lyon. Donc, moi, franchement, ça me pose pas de problème.
Il est... Puis sur le match de Coupe de France, on a vu qu'il savait le mettre de côté, parce que sure, il n'a pas été en dilettante. Il n'a pas envoyé, on n'est pas en tongue.
Il peut évoquer son amour pour Lyon et l'Olympique Lyonnais, sans pour autant que dans sa causerie d'avant-match, il va dire les gars, vous jouez comme vous voulez. Hein.
Sur son 11 de départ non plus.
Ben voilà, non, je pense que c'est un professionnel et il va nous honorer cette partie comme les autres.
Évidemment qu'on
ne voudrait pas faire de cadeaux.
On ne voudrait pas faire de cadeaux.
Moi, j'en ferai pas. Hein.
Plus, évidemment.
Ce serait dommage, bah effectivement, oui, qu'il y ait des êtres croisés.
De toute façon, le petit Lille bat au cerf et il n'y a pas de question à se
poser. Il faut gagner.
Voilà.
Il faut gagner, Lille.
Voilà. Comment résoudre les problèmes? Leçon en 10 points par Iban Duhour. Juste un mot sur les Lensois, puisque Mamadou Sangaré a été sacré. Il a remporté le prix Marc-Vivien Fouet, qui sacre le meilleur joueur africain en Ligue 1. Très bonne saison de Mamadou Sangaré. Est-ce qu'il va pouvoir rester à Lens la saison prochaine? Là, ça
grosse
fait partie.
Valeur marchande, donc forcément.
Le casse-tête pour effectivement Jean-Louis Leca. À noter aussi la liste de Didier Deschamps qui arrive dans 3 jours, avec un premier sélectionné déjà côté Lensois. C'est Celik qui est sélectionné par la Bosnie et qui va donc affronter le Canada, la Suisse et le Qatar. Donc, est-ce que Mathieu
Il est déjà dans le groupe pour le...
Il est sélectionné avec la Bosnie pour la Coupe du Monde.
Ah d'accord.
Donc il reste
il a 20 ans,
de Mathieu Hüdel.
En fin de compte, Lens renoue avec son passé, parce que c'était dans les années, fin d'année 60, il faisait jouer des gamins. Il y avait les deux frères Lech.
Même là, on peut revenir sur Cagnou.
Richard Kreisi qui a joué en pro, il y avait 3-4 joueurs qui avaient 16 ans, 16 ans et demi. C'était un club qui était réputé pour la formation des très jeunes, pas des jeunes, des très jeunes. Donc il renoue avec. C'est bien. Moi, j'aime bien ces clubs qui travaillent un peu à l'ancienne et qui se disent dans notre territoire, il y a encore des bons joueurs. Il ne faut pas faire des milliers de kilomètres.
Oui, celui qui n'est pas trouver. Forcément du cru. Non, mais effectivement, tu as raison, non, la formation.
C'est pas le Meslou.
Ni du cru, ni d'un bon mais en tout cas.
Après, il y a, comment dirait, il y a le, l'arrière central, le jeune.
Gagnou. Justement, Gagnou, effectivement.
Qui est né à Lille, qui a joué. Je ne savais même pas qu'il a joué à un club où j'ai entraîné. L'OS FIV.
Bon, alors, tu sais quoi, on va faire une petite pause dans tes souvenirs. On va reparler justement tout de suite après la pub. On va parler du Grimont-Préjoris. Tu as été parmi les premiers à justement jouer dans ce stade qui a aujourd'hui disparu.
Faut bien faire des trous. Ouais.
Vous en avez écrit un livre et justement on en parle tout de suite après la pub. C'est une histoire qui a duré une trentaine d'années. Voilà, comme ça on est, on n'a pas à faire des calculs avec nos doigts. 29 ans donc de Grimont-Préjoris, expliqué dans ce livre signé Arnaud Maillot, Maxime Pousset et Damien Bonne. Livre sorti en novembre dernier qui revient donc sur tous ces matchs qui se sont déroulés juste à côté de la citadelle de Lille. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Tu nous as donc rejoint en plateau et la lecture a l'air passionnante pour Tony qui s'est replongé dans ses souvenirs d'Akin a vu le livre. Justement, toi
tu étais. Feu noir à l'époque.
Hein. Et les photos en noir et blanc, donc ça aide aussi. Plutôt pour revenir d'ailleurs sur les matchs, donc l'inauguration du stade en 75, en 74, Tony, toi t'es dans l'équipe qui est sacrée championne de France de D2. Dans quel état d'esprit vous êtes quand le groupe découvre justement ce nouveau stade?
On était comme des enfants au pied d'un arbre de Noël devant un jouet, quoi, parce que c'était le plus beau stade de France. Après le Parc des Princes, c'était la moitié du Parc des Princes, c'était le même architecte. Le Parc des Princes était à 50 000 et nous on était à 25 000. C'était vraiment la copie conforme, quoi. Et donc jouer, il faut savoir qu'à Joris, les vestiaires faisaient de 12 mètres carrés. Et on est arrivé à Grimont-Préjoris, on était à 110 mètres carrés, quoi, avec une piscine. Les douches, il y en avait 4. Là, il y en avait 20, quoi. Donc, l'entraîneur avait son bureau.
Le stade moderne à l'époque, quoi.
Les docteurs, lorsqu'on faisait la traditionnelle visite médicale le mardi matin, ils avaient également un endroit spécifique à eux, pour eux. Donc,
t'as senti le club qui se professionnalise, en fait?
Oui. Oui, mais au niveau des structures d'entraînement, ça n'avait pas changé. Il fallait regarder le planning de la semaine pour savoir où tu t'entraînes le mardi, où tu t'entraînes le mercredi, t'entraînais le lundi, alors t'allais à FIV, t'allais à Los, t'allais à LM.
Donc la progression du club qui s'est faite petit à petit.
Voilà, c'est après qu'ils ont eu les terrains à côté de Grimont-Préjoris que là, on a vu enfin moi je l'ai pas vu, mais c'était après que je sois parti, ils ont vu la différence de pouvoir justement s'entraîner, se préparer dans des conditions de terrain, alors que quand t'allais le mercredi matin au stade Kaby à Saint-André.
Maxime, justement, comment ça s'est passé le travail de recherche, d'écriture? Comment vous l'avez travaillé? Comment vous êtes réparti les missions?
Alors on était à trois, donc avec Damien et Arnaud à l'écrire ce livre. Alors on s'est réparti sur plusieurs thématiques selon ce qu'on avait, nous, comme appétence en particulier. Moi j'ai vraiment travaillé beaucoup sur les entretiens. Arnaud, qui a eu beaucoup d'archives, de photos, a vraiment travaillé sur saison par saison. Et puis Damien a aussi fait un gros travail sur les saisons et sur le récit. Globalement, c'est un livre en fait qui se construit de façon à raconter Grimont-Préjoris de sa construction à sa destruction, sur le plan sportif, mais aussi sur le plan administratif. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a construit un nouveau stade, pourquoi on a décidé à un moment donné de l'arrêter. Donc c'est vraiment un récit qui est à la fois sportif et à la fois administratif, émotionnel en fait.
Et justement, pour revenir sur tout ce qui s'est passé, Arnaud, toi, ton premier souvenir à Grimont-Préjoris, c'est quoi?
Mon tout premier souvenir, c'est le premier match de football que j'ai vu dans un stade. C'était Lille-Bastia en 1983. C'était aussi le premier match de Pascal Olmeta en pro. Et c'est un souvenir déjà familial. J'y suis avec mon papa et j'ai 8 ans. Et voilà, c'est une belle histoire. Et ensuite, c'est la fascination de voir des joueurs que j'avais vu Campanini évoluer sur le terrain, les voir en vrai, essayer de les reconnaître, enfin voilà, donc c'est
émotion, c'est aussi pour toi,
énormément d'émotion.
Oui, parce que ouais, moi ouais. Bon, je suis supporter de Lens, mais les premiers matchs de foot que j'ai été voir avec mon père notamment, c'était à Grimont-Préjoris. Donc vraiment, j'ai découvert le foot aussi petit à Grimont-Préjoris avec le LOSC.
Benjamin, je te pose la question, est-ce que tu es déjà allé à Grimont-Préjoris? Pas encore.
Jamais.
Jamais l'occasion, effectivement, de découvrir.
Il y aura toujours un manque dans sa vie. Hein.
Oh, ça restera.
Mais alors, eh ben, Alors, tu sais quoi, tu vas pouvoir te replonger dedans grâce à, donc à ce fameux livre, découvrir peut-être ces matchs.
On dira que j'étais trop jeune. Je serais excusé.
Et un peu loin aussi, effectivement. Bon, t'as plein d'arguments pour toi. Juste pour revenir un petit peu sur un stade qui vit comme ça une trentaine de saisons, il y a forcément des tonnes d'anecdotes qui doivent se retrouver dans le livre. Est-ce que Maxime, tu peux m'en citer peut-être une, la plus marquante pour toi dans ton travail de recherche?
Bah alors, quelque chose que moi je savais, mais je n'avais pas forcément creusé, en fait, c'est qu'il y a, en fait, avant Grimont-Pré Joris, il y avait aussi déjà un stade à cet endroit-là. En fait. Les gens ne le savent pas forcément. C'était le stade Félix Grimont-Pré, c'était un stade d'athlétisme, mais vraiment pour les sportifs amateurs, qui a été détruit, en fait, vraiment, pour laisser place à un nouveau stade qui a été construit, donc le futur stade Grimont-Pré Joris, justement, qui a pris le nom de Grimont-Pré Joris en hommage à cet ancien stade Grimont-Pré et à l'ancien stade Henri Joris du LOSC. Donc c'était un peu une fusion des deux noms.
Et pour préciser, donc Félix Grimont-Pré, c'est un hockeyeur olympique mort en 1940, et Henri Joris, c'était le président de l'Olympique Lillois à l'époque.
Mort en 1940 aussi.
Effectivement. Juste pour revenir donc sur ce stade, sur sa situation aussi, parce que donc aujourd'hui c'est un terrain à côté de la citadelle avec une stèle. Est-ce qu'elle vous procure encore un peu d'émotion quand vous vous rendez, bah surtout toi peut-être Arnaud, quand tu te rends
sur le endroit-là? La stèle, elle me procure de l'émotion parce qu'on a mis une nouvelle stèle avec notre association, donc Mémoire du football lillois, à l'occasion de la sortie de ce livre, et Tony était ouais. présent également. On a pu, avec la mairie de Lille, mettre une nouvelle stèle pour bien rappeler à toutes les personnes qui passent auprès de la citadelle qu'ici... fut un stade et on rappelle qui était Félix Grimont-Pré et qui était Henri Joris, et donc ça nous a l'idée c'est de faire renaître un peu tous ces endroits cultes dans la ville de Lille et de faire perdurer la mémoire du football lillois.
Tu dis dans la ville de Lille, c'est important parce qu'aujourd'hui il y a un débat, les stades en centre-ville comme les par exemple Félix Bollard qui est un des derniers de France, je pense aussi au stade de la Libération à Boulogne-sur-Mer, fallait bien que je le place. pour revenir donc sur alors qu'aujourd'hui les stades s'exportent des centres-villes, votre préférence, elle va où? Est-ce qu'il faut essayer de retrouver des places dans les centres-villes pour les stades de foot?
Complètement.
Ça te manque?
Oui, complètement, oui.
Mais pourquoi? C'est quoi? C'est la nostalgie qui parle? C'est la non, c'est praticité pas la... Parce que mine de rien, moi, quand t'arrives en voiture...
J'ai connu le stade Duré à Nice, qui était des centres-villes à Nice. Maintenant, ils sont là-bas, il n'y a plus personne qui va. J'ai connu le stade Vélodrome de Bordeaux, c'est à Bordelmas. Bon, ils sont partis également. Non, je pense que avoir un stade comme à Lens, à Bollard ou Valenciennes, à Gesser, je trouve que ça fait vivre là. Maintenant du Hainaut. Non, moi je suis pas nostalgique. Lorsqu'on a appris que le stade allait être démoli, on s'est pas imaginé. Maintenant, quand je passe et que je vois de l'herbe partout, je me dis. C'est incroyable qu'il y avait une enceinte ici de 25 000 personnes.
Et vous, Benjamin, Iban, sur les stades en centre-ville, plutôt en périphérie? Plus pratique
je
ou
nostalgique? Je ne connais qu'un stade qui est en centre-ville, donc forcément. Mais si je me base par rapport à ce qui se dit, d'un point de vue purement praticité, on a cité les Niçois, les Bordelais, les Lyonnais.
PSG, à Paris aussi.
PSG, beaucoup de supporters se plaignent du manque d'accessibilité sur les nouveaux stades qui ne soient plus en centre-ville. Donc,
c'est sûr.
Comme ça, je ne dirais qu'en centre-ville...
Avec Bollard, vous êtes bien chaussé.
Nous, on est très bien, on n'est pas à se plaindre.
Et ça fait vivre la ville, quoi. Je veux dire, dans le soir des matchs, je serais surpris de savoir combien, après le match de Lille, à Montroy, si les restaurants lillois...
Les commerces sont souvent pleins autour de la Décathlon Arena, mais c'est des commerces.
Mais pas à Lille.
Oui, mais effectivement, pas dans le centre de Lille.
Aujourd'hui, les Lillois s'entraînent à Canfin et ils jouent à Villeneuve-d'Ascq. Moi, ça me gêne un peu, quoi.
Et aujourd'hui, on arrive à avoir un écho, justement, en parlant de la mémoire du football lillois avec la mairie de Lille, parce que la mairie de Lille veut avoir une présence du LOSC aussi au sein de la ville.
Bien sûr.
Voilà, ça c'est important aussi pour répondre.
Et Maxime, le mot de la fin.
Après, voilà, est-ce que le LOSC aurait eu la même trajectoire, la même progression? Est-ce qu'on aurait vécu toutes ces belles émotions si on était resté à Grimont-Pré Joris, dans un stade forcément limité? Donc à un moment donné, c'est aussi ce football moderne qu'on souhaite tous, parce que ça, c'est ce qui permet aussi à nos clubs de progresser. C'est inévitable à un moment donné d'avoir une enceinte plus grande, plus moderne et plus adaptée au football d'aujourd'hui. Quoi.
Et donc, si vous souhaitez vous replonger dans tous les souvenirs, comme l'a fait Tony, on était très dissipé, Tony, il a voulu vraiment revoir toutes les photos.
Les plus grands matchs,
les plus grands matchs, bref, 30 ans de souvenirs sportifs à Grimont-Pré Joris.
Et après 2-3 matchs, l'entraîneur de l'époque, Georges Perroche, a fait
Ce sera dans le volume.
Réfléchir.
Le terrain était trop grand.
Oui, c'était vraiment ouais. un petit stade et un petit terrain. Et si on avait la publicité Kretschmar, on savait que là, on était à 25 mètres du but. Et donc, on avait des points de repère. Non, mais c'était incroyable. Ouais. Quand on s'est retrouvé avec Montpré-Joris, et ben le stade, il était 4 mètres plus large. C'est phénoménal, 4 mètres. Hein. Donc, Perroche a dit allez. On va reprendre les dimensions de Joris. Ça ne nous a pas empêché de perdre quelques matchs aussi.
Et donc, toutes ces anecdotes à retrouver dans ce livre Grimont-Pré-Joris 1975-2011 aux éditions Les Lumières de Lille, signé Damien Bonne, Arnaud Maillot et Maxime Pousset. Merci, messieurs.
Merci.
On se quitte quelques instants, le temps d'une courte page de pub, et puis on va parler de Valenciennes, tout de suite dans Cop Nation. Allez, on est de retour dans Cop Nord. On va maintenant parler de la Ligue 2 qui a rendu son verdict donc ce week-end avec deux défaites pour Dunkerque et Valenciennes qui vous sont résumées par Thierry Bochard.
2025-2026 finit par une défaite pour Boulogne-sur-Mer. Les rouges et noirs en blanc pour l'occasion s'inclinent à Laval. La faute à Kouassi, buteur ici à la 41e, et Camara 3 minutes plus tard. Dans les dernières secondes, Lucas Boiteau score sur pénalty. 2-1, Boulogne se classe 15e, 4 points devant son adversaire du soir qui est donc barragiste. Soirée à oublier pour Dunkerque lors de la dernière journée de Ligue 2. Le bourreau s'appelle Nancy. Les Lorrains marquent en première période par Saint-Ruf, ici et Guendez. Hélas, la réaction de Sekongo à la 79e est trop tardive. Voilà le but du break par Takafred, puis Robinet marque pour l'honneur en fin de match. 3-2, 10e du classement, l'USLD jouera une quatrième saison consécutive dans cette division.
Vous l'avez donc compris, Dunkerque qui termine 10e avec 43 points. Boulogne, de son côté, termine à la 15e place de Ligue 2 avec 4 points d'avance tout de même sur la zone rouge. Allez, on passe maintenant au National. Autre défaite, cette fois-ci de Valenciennes face à Bourg-en-Bresse, résumé par Thierry Bochard.
C'était l'avant-dernière journée en National et Valenciennes a concédé sa troisième défaite en 4 matchs. Les hommes de Pierre Blois se sont inclinés sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Le seul but de la rencontre a été inscrit par l'international gabonais Jonathan Domarcolino. Le VFC sera quoi qu'il arrive dans le ventre mou du classement, mais aura l'occasion de finir sur une note positive à domicile contre Châteauroux.
La déception parce que on s'est créé les meilleures occasions du match, on les a pas mises et puis ils en ont une ou deux, ils la mettent. Scénario qui est frustrant et je compte sur le vestiaire pour rebondir très vite la semaine prochaine. Je leur donne un rendez-vous vendredi pour gagner le match. Ouais,
et pour revenir sur cette rencontre, on accueille notre supporter valenciennois du soir. Bonsoir Nicolas Donin.
Bonsoir Vincent.
Et puis en plateau avec nous, comme chaque semaine, Théo Dorangeon. Bonsoir Théo.
Salut Vincent.
Alors Théo, justement avec toi pour revenir et compléter ce qui s'est dit sur ce match, Valenciennes a eu pourtant énormément d'occasions sur cette rencontre.
Oui, énormément d'occasions Valenciennes, mais vraiment puni sur le seul but de cette rencontre. Il y a eu d'énormes occasions, notamment celle de Abdoul Wahid avec une énorme frappe qui vient rebondir sur la transversale. La balle rebondit tout proche de la ligne. L'arbitre n'a pas validé le but. Gaëtan Courté aussi dans cette première mi-temps avec une reprise acrobatique qui a tapé le sol et la balle qui est bien montée. Le gardien évidemment a réussi à mettre cette petite claquette. Et puis peut-être la plus importante aussi, c'est la Dari dans un contre-attaque bien servi qui fait face au gardien, qui arrive à le dribbler, qui arrive à tirer. Mais il y a un retour vraiment salvateur de la défense de Bourg-en-Bresse avec un sauvetage et même un sacrifice parce que le tacle pour aller sauver sur la ligne, derrière encaisser un choc avec le poteau, il fallait quand même y aller, un gros sacrifice. Donc il y a quand même eu beaucoup d'occasions pour Valenciennes qui encore fait face à ces problèmes d'efficacité comme c'est récurrent depuis le début de saison.
Ouais, justement, nouvelle déception, on va dire ça comme ça Nicolas, pour toi, encore des problèmes d'efficacité qui avaient longtemps été pointés du doigt et encore une défaite en fait pour Valenciennes avec toujours ces mêmes démons depuis le début de la saison.
Je pense que Théo a bien résumé la situation. Hein. Clairement, on se procure, on fait du jeu, on fait le jeu même clairement. On se procure des situations, quelques occasions et ça rentre pas. Donc, bah voilà, c'est oui une déception parce qu'on perd contre l'avant-dernier, enfin non pas l'avant-dernier, mais celui-là du championnat. Ouais. Il est temps que ça se termine.
Elle est longue, elle est éprouvante cette saison, même si ça fait plusieurs semaines qu'on sait que Valenciennes est maintenue. Ça te fait toujours... Comment tu le sens justement, le fait que cette équipe n'arrive pas à avancer et n'arrive pas à concrétiser encore une fois ses occasions ?
Tu me posais la question de saison décevante. Ça fait une dizaine d'années qu'on vit des saisons décevantes. Donc, si tu veux, quelque part, il y a une espèce de petite résignation. Bah, pour autant, on a toujours du sang rouge et blanc qui coule dans nos veines. Mais c'est vrai que c'est parfois compliqué. Et puis les espoirs de monter, disons, eu égard au mercato d'été, sont très rapidement confrontés à une réalité. Pour un maintien qu'on a effectivement obtenu de haute lutte avec Pierre Boy et Rudy Mater il y a quelques semaines déjà, une fois ça acquis, quelque part, même si on veut jouer tous les matchs à fond jusqu'à la fin de saison, et c'est ce qui se passe, hein, clairement, ils n'ont pas triché. Ton seul enjeu, c'est d'essayer de monter 8e, donc là, c'est déjà plus possible, donc de monter à la 9e place, c'est frustrant, oui.
Justement, en parlant de l'année prochaine, déjà, ça faisait partie des plans de Pierre Blois sur cette rencontre. Hein, Théo, on a vu des jeunes joueurs qui ont pu prendre leur chance.
Oui, il incorpore de nouveaux joueurs, Pierre Blois, notamment Nolan Bourrichon, qui faisait sa première titularisation avec l'équipe première. C'est un joueur des U19 nationaux qui avait joué quelques minutes contre Dijon en défense centrale. Et là, il a joué l'entièreté du match aux côtés de Loïc Landre, donc la place d'Alexandre Coef. Donc, quand même, sur un secteur assez pourvu en joueurs avec Loïc Landre, Alexandre Coef, Romain Thomas, qu'on n'a pas vu aussi depuis assez longtemps. Sakalou Nekate aussi qui peut jouer. Donc, il incorpore de nouveaux joueurs. On a aussi eu la première de Justin Lacombe dans les buts. Il a voulu faire tourner et donner cette chance parce que c'est aussi compliqué en national. Le Valenciennes était sorti dès son entrée en lice en Coupe de France, donc pas la possibilité pour Justin Lacombe de jouer un match national qui était vraiment réservé aux gardiens titulaires, avec vraiment cette possibilité de proposer un match. C'est quand même une récompense aussi pour un joueur qui est quand même présent toute la saison au quotidien à l'entraînement.
Sur ces jeunes profils, Nicolas, est-ce qu'il y en a certains? Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a tapé dans l'œil, hein, ou plusieurs?
Merci pour ta question, Vincent. Bah, clairement, taper dans l'œil, c'est. Alors là, je ne vais pas répondre que sur ce match.
Non, mais au moins, quittons plus le fait de voir justement des jeunes. Est-ce qu'il y a des pistes d'espoir pour l'année prochaine, par exemple?
Je dirais que. Allez, si on s'arrête sur le défenseur central, il n'a pas fait d'erreur, mais évidemment, il n'a pas amené un fait de jeu qui aurait permis de marquer un but, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est difficile de le détacher sur ce match. La combat était propre. Clairement, on avait eu plus d'apports de jeunes en attaque la semaine d'avant et la semaine encore avant, mais qui n'ont pas su s'extirper du jeu pour créer quelque chose. Donc j'appelais à la titularisation de jeunes, mais pour l'instant j'ai pas encore rien vu qui se détachait. Non.
Et justement, pour continuer sur cette question de l'année prochaine, Théo, il y a des fins de contrat qui se profilent et on commence à savoir un peu qui seront déjà ceux qui vont quitter Valenciennes.
Il y en a beaucoup, Brian Passy, Alexandre Coef, Romain Thomas, Ahmed Diomandé, Sakalou Niakate, Rémi Boissier, Jules Collet, Quentin Daubin. Il y a quand même quelques joueurs qui sont arrivés cet hiver. Brian Passy, Quentin Daubin, pas sûr qu'ils poursuivent, ils ont signé pour 6 mois, et pas sûr qu'ils poursuivent l'aventure avec Valenciennes. Il y a des joueurs aussi qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Romain Thomas en défense centrale, on ne l'a pas vu depuis très longtemps. Ahmed Diomandé qui a été complètement mis de côté par Pierre Blois sur les côtés de la défense, qui même d'autres joueurs lui ont passé devant alors que c'était pas vraiment leur poste. Il y a une Sakalou Nekate qu'on peut penser qu'il va continuer. C'est un jeune joueur qui a vraiment pris de l'épaisseur tout au long de la saison. Et après, il y a la question aussi Rémi Boissier, Alexandre Coef, qui serait plutôt vers un départ. Question aussi de budget pour deux joueurs qui ont quand même une sacrée expérience quand même avec Alexandre Coef et même Rémi Boissier, qui a un amour du club assez indéniable. Mais peut-être qu'il y aura des choix à faire du côté de la direction sur aussi renouveler cet effectif et à voir aussi combien d'arrivées il y aura la saison prochaine, parce qu'il y aura des manques à combler et pas revoir à nouveau 15 recrues arrivées d'un coup et avoir le temps que ce nouveau groupe prenne l'effet.
Ouais, gestion des salaires, effectivement, de les plus gros salaires qui sembleraient quitter l'effectif, effectivement, puisque cette nouvelle année semble pénaliser vraiment les finances de Valenciennes. Une dernière question pour toi, Nicolas, dans cette liste des joueurs en fin de contrat, est-ce qu'il y en a que tu voudrais absolument voir rester du côté du NO?
Si on par là, il n'est pas aimé, il arrive en renfort de poids. Vers la 60e, Boissier a clairement ouvert. Je pense que c'est un joueur de club et qui peut nous faire du bien. Par contre, effectivement, ce sont parmi les plus gros salaires. Daubin a fait une belle prestation là. Clairement, pourquoi pas lui reproposer une pige. Mais voilà, comment dire, une saison avec 10-12 nouvelles recrues, clairement, j'ai vraiment pas envie de signer pour ça. Il y a trop d'inconnus dans l'équation. Et si on veut monter l'année prochaine, on peut pas faire trop de paris comme c'est le cas depuis quelques années, quoi.
Il me reste une dernière question à te poser, Nicolas. Ce week-end, c'est la dernière, donc à domicile face à Châteauroux. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu par les supporters pour cette dernière? Est-ce qu'il y aura quand même des encouragements? Est-ce qu'il y aura quand même des chants? Est-ce qu'il y aura des banderoles peut-être? Est-ce que vous avez commencé à en parler?
On l'a évoqué en intergroupe, on s'est posé la question et la réponse a été la suivante. On n'interdit pas aux membres et de venir au match évidemment, mais ce ne sera pas sous la forme du groupe avec des chants du groupe et une animation de la tribune par le groupe. La question s'est posée. On se l'est posé donc entre nous déjà de une et avec les autres groupes de la tribune, mais il n'y aura pas d'animation particulière pour ce match.
Voilà. Merci beaucoup pour ces explications, Nicolas. Peut-être Théo, un dernier mot.
Sachant que ça sera un match en jeu, en tout cas pour Châteauroux, qui joue sa survie en national pour rester dans cette fameuse Ligue 3 la saison prochaine, qui a encore un coup à jouer pour ne pas descendre en National 2.
Effectivement. Merci beaucoup pour ces explications aussi, Théo. On peut regarder donc le classement de cette nationale qui se termine ce week-end et dont vous pourrez voir le dernier match sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Il reste une journée donc, EVA est 10e avec 36 points. Merci Nicolas, merci Théo. Il nous reste à voir le reste de l'actualité sportive de la région. C'est tout de suite et c'est avec Nicolas Flon.
Coup double pour Jimmy Gressier lors des championnats de France du 10 km. Le champion du monde de la distance a tenu son rang du côté de Troyes. Septième titre de champion de France sur 10 000 mètres pour Gressier avec un temps de 27 minutes et 47 secondes. Un chrono qui lui permet donc de s'imposer et de réaliser les minima de la Fédération européenne pour les prochains championnats d'Europe de Birmingham.
Ce week-end, il y avait aussi la 21e édition de la Route du Louvre 2026 et petit événement chez les hommes avec la victoire surprise du Kenyan Anthony Kimtai. Le coureur était initialement prévu meneur d'allure pour aider les favoris. Il l'a emporté lui-même après 2h, 9 minutes et 31 secondes d'effort. Chez les femmes, victoire de Roselyda Jepketer, la coureuse du Bahreïn a terminé première avec un temps de 2h30 minutes et 48 secondes. Ils étaient plus de 15 000 ce dimanche à avoir participé aux différentes courses de la Route du Louvre.
La frustration est grande, mais tout n'est pas perdu pour Gravelines Dunkerque dans sa course au maintien. Pour le compte de la 29e journée de la saison régulière de Betclic Elite, les nordistes étaient opposés à Nanterre, habitués aux hautes sphères du classement. Un duel intense qui a poussé les deux équipes en prolongation. Défaite 80 à 85 pour Gravelines Dunkerque, mais grâce au revers de Saint-Quentin face au Mans, à une journée de la fin, les maritimes conservent leur destin en main pour éviter les barrages. De son côté, le Portel continue son calvaire. 28e revers en 28 matchs de championnat cette saison. La lanterne rouge s'incline lourdement 58 à 93 face à Chalon-sur-Saône.
Flavien Coton et l'équipe de France de tennis de table en bronze au championnat du monde par équipe. À Londres, le parcours des Bleus s'est arrêté en demi-finale après un duel mémorable face à la Chine, invaincu depuis 2001. Et le nordiste Flavien Coton est notamment passé tout proche de l'exploit face au numéro 1 mondial Wang Chuqin. Le Français de 18 ans a longtemps tenu tête aux Chinois. Il a remporté 2-7 et a fini par s'incliner dans la cinquième manche 11-8 au bout du suspense. Le pongiste décroche la première médaille mondiale de sa carrière, lui qui a déjà remporté l'or au championnat d'Europe par équipe en 2025. Flavien Coton.
L'aventure s'arrête dès le deuxième tour pour Terence Atman à Rome. Le Boulonnais, 51e à l'ATP, était opposé au 12e joueur mondial, l'Italien Flavio Coboli, qui évoluait de son côté devant son public. Malgré quelques opportunités de faire la course en tête lors du premier set, le Français n'a pas su concrétiser. Conséquence, il s'incline logiquement en deux manches, 7-6, 6-3.
Il nous reste juste à jeter un coup d'œil à ce qui nous attend les prochains jours. Et ça commence dès mercredi avec ce match entre Lens et le Paris Saint-Germain. Ce sera donc à 21h. Ensuite, vendredi, dernière journée nationale. On en a parlé sur BFM Lille et BFM Littoral avec Valenciennes qui accueille Châteauroux. Et puis le multiplex de la Ligue 1 dimanche. Lens se déplace à Lyon et Lille accueille Auxerre. Voilà, c'est la fin de ce COP Nord. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Théo Derangeon et Clément Kaminski qui étaient aux manettes de cette édition. On n'oublie pas non plus toutes les équipes d'RMC Sport comme chaque semaine et tous les supporters et journalistes qui viennent avec nous en plateau. On se retrouve donc lundi prochain pour terminer en beauté, on l'espère, cette saison de Ligue 1. À la semaine prochaine. Salut.